assez nombreux ce soir, malgré les pronostics. En fait, la veille de ce week-end, enfin de ce jour férié. Donc, ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Marc Brusselmans, qui est donc psychiatre, chef de service de l'unité des troubles de l'humour, de la clinique Fontroy, thérapeute de couple. Et Jean-René Meurig, psychologue, thérapeute systémique, formateur à Forestière. Voilà, qui vont parler autour de l'humour en psychothérapie. Moi, j'ai lu une citation de Guy Bedos qui disait que essayer de définir l'humour, c'était risquer d'en manquer. Mais heureusement, c'est pas ça qu'on fait ce soir, c'est juste l'humour dans la thérapie. Donc, on prend pas de risque. Voilà. Bonne soirée. N'oubliez pas la prochaine soirée dialogue qui aura lieu le 19 juin et qui parlera de l'éthique. Plutôt, existe-t-il une éthique spécifiquement systémique ? Avec Jean-Luc Ostert et Marc Stinglambert, voilà, qui sont tous les deux membres de l'association. Bonne soirée.
Donc, on discutait un peu en préparant ce moment de dialogue. Et tous les deux, on se trouvait un petit peu audacieux de se retrouver là, en plus une veille en effet de long week-end. Mais je peux déjà vous dire que Séville mène 2-0, et que donc, malgré le fait que vous ne soyez pas en train de regarder la finale de l'UEFA, il y a quand même des informations, mais donc tu me tiens au courant. Mon embarras est grand parce que je pense que je n'aurais absolument jamais dû accepter de donner cette conférence, parce qu'au moment où même où je commençais à réfléchir à ce que j'allais bien pouvoir vous dire, je me suis dit qu'il y avait deux pistes. D'abord, c'était de laisser toute la place à Marc. Mais vu mon orgueil, c'est difficile. Et mon bavardage.
Ça, je le savais, donc.
Oui, donc tu savais. Et puis surtout, bon, mais quelle prétention que d'oser approcher l'humour. D'abord, de tenter de la définir, en effet, ce serait en manquer. Surtout que si vous lisez des livres qui définissent l'humour, c'est particulièrement ennuyeux. Et si vous avez des problèmes de sommeil, c'est une recommandation que je vous fais, que d'aller vous promener dans ces livres, parce que l'humour est quelque chose par essence même d'insaisissable. La relation que nous avons ce soir est une relation qui ne va pas me permettre, vu le fait qu'on ne se connaît pas, qu'on n'est pas dans une relation durable, de pouvoir essayer de faire avec vous ce que je pense être ce que l'on peut faire dans un processus thérapeutique, dans une relation thérapeutique et du recours que l'on peut avoir à l'humour dans ces moments-là. Je vais donc me permettre d'utiliser des métaphores que nous connaissons tous, qui sont naturellement des blagues. Les blagues sont des métaphores humoristiques que je vais me permettre d'utiliser pour essayer d'illustrer la réflexion que je vais faire par rapport à l'humour. Je voudrais que vous ayez en point d'orgue cet événement très particulier. Lorsque vous racontez une blague, autour de la table, les personnes à qui vous les racontez, si la blague est plus ou moins bonne, rigolent, et puis il y a toujours quelqu'un qui se sent cette obligation absolument pathologique de dire « C'est quand même curieux que tu te souviennes, toi, des blagues. Moi, je ne m'en souviens jamais. » Il y a comme cette répétition inlassable. Vous avez, à toutes les soirées, des raconteurs de blagues et des amnésiques. Vous avez cet équilibre étrange entre ceux qui s'en souviennent et ceux qui viennent dire « Mais comment fais-tu? Moi, je ne m'en souviens pas. » Et je voudrais essayer de vous montrer que la fonction de l'humour a justement à voir avec l'oubli, à voir avec la capacité de faire voler en éclats notre système de pensée. On dit rire aux éclats, et je voudrais essayer de vous montrer que l'humour a cette fonction particulière de venir interroger notre construction du monde. Alors, je vais dans quelques instants vous lire votre horoscope, si vous êtes d'accord, mais avant ça, je voulais vous dire pourquoi le sujet de l'humour m'a intéressé. Deux événements particuliers, singuliers, m'ont troublé et m'ont amené à essayer de réfléchir à l'humour. La première des choses, c'est un événement intime. J'ai assisté, il y a quelques années, à l'enterrement du père d'une amie qui était très touchée par la mort de son père. C'est une famille catholique, il y a donc un rituel religieux. Je me trouve au premier rang, je suis à côté de cette amie qui est très touchée par la mort de son père, qui est dans une grande émotion. Je suis à 2-3 personnes d'elle. Et il y a le curé qui officie, et c'est un curé moderne. C'est un curé qui pratique un rituel moderne, et qui va égrener son discours religieux de formules qui méritent énormément. Mais comme je suis là pour respecter surtout l'émotion de mon ami, je ne me permets pas de faire des commentaires. Le curé est debout, il est derrière l'autel, et sur la gauche, il y a une chorale. Et il dit certaines choses qui sont reprises en chœur par la chorale. Il dit « Dieu est amour » et la chorale répond « Dieu est amour », des choses comme ça. Il y a un petit problème technique, c'est que devant la chorale, il y a une première chanteuse. C'est-à-dire qu'elle est la personne qui chante seule, qui reprend avec une voix plus puissante les paroles du curé, qui sont ensuite répétées par la chorale. Et il y a un petit problème technique, c'est que cette chanteuse est grande et le micro est bas. Elle est donc dans une position très 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 inconfortable, elle doit donc se baisser, et donc pousser son derrière en arrière pour accéder à une certaine proximité du micro. Je suis irrité, je suis donc dans une émotion très troublante, et à un moment, il dit, le curé, Dieu est amour, et elle reprend, et insensiblement, au cours de cette messe, elle se met à avoir des petits mouvements avec son derrière. C'est-à-dire que Dieu est amour en balançant le derrière. Et ça devient une sorte de chorégraphie très étrange, où le curé dit certaines choses, elle le relaye dans cette danse singulière, mais je vous dis, je suis à la fois irrité et touché par l'émotion de mon ami, donc je ne peux pas ni faire un commentaire, ni rire. Il y a un interdit d'humour absolu. Je suis là, et je regarde, et je me dis, je ne peux pas continuer à regarder, parce que sinon je vais partir dans un éclat de rire. Donc je me mets à regarder les vitraux, la tête des gens, et en balayant le regard, tout à coup, mon regard tombe sur un de mes amis, qui est quelques mètres plus loin, et qui est dans la même émotion que moi, dans la même promenade que moi. Et nos regards réciproques s'attirent, s'emboîtent, et on sent le fou rire nous prendre. Et donc c'est interdit, bien sûr, et donc il y a un mouvement brusque, et je me jette sur mes pieds, et je regarde mes pieds, et je deviens fasciné par mes pieds, dans la mesure où je ne peux pas rire. Et ça marche. Je suis soulagé, je sens qu'après quelques instants, qui me semblent courts, je retrouve mes esprits, je retrouve mon calme, et donc je me lève, je lève mon regard, et je constate avec effroi que tout le monde est assis, et que moi je suis debout comme un gros devant, et que je n'ai rien entendu, rien vu, rien perçu. Cet interdit d'humour dans lequel je me suis tombé m'a véritablement capturé, m'a extrait du monde, m'a mis dans une sorte d'état, tout à l'heure on discutait, je dirais très psychotique. Et à l'après, psychotique, oui c'est vrai. Et j'espérais un peu de secours. J'espérais un peu de secours. D'accord, on avait dit psychotique. Ouais. Et donc, après, mes amis me diront, mais tu sais que tu es resté 10 minutes. Et donc c'est vraiment une surprise pour moi, donc c'est vraiment psychotique. J'ai senti le diagnostic là. Et je suis vraiment resté pendant 10 minutes, coupé du monde, mais ne riant pas. Ce premier événement m'a particulièrement troublé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Le deuxième événement que je voudrais utiliser comme point d'orgue, je dirais pour commencer, c'est que j'ai pendant quelques années travaillé dans un service, presque une année, dans un service de médecine infectieuse, où on soignait des patients de sida en phase terminale. Et le lundi matin, nous étions trois psychologues, le lundi matin, lorsque nous arrivions, nous avions un rituel qui était de voir celui qui avait le plus de morts pendant le week-end. Et les deux autres l'invitaient au restaurant. Tout ça, c'est pour mettre l'ambiance. C'est-à-dire, comment nous pouvions rire de quelque chose d'aussi insupportable que la mort. Voilà. Ce sont les deux premiers éléments, ça c'est juste pour lancer l'ambiance, on sent que ça prend. L'idée fondamentale, c'est que d'essayer de vous parler d'humour, c'est essayer de vous parler de quelque chose d'extrêmement important, c'est d'essayer de vous montrer comment, dans nos protocoles de pensée, dans la manière que nous avons de construire le monde, dans la manière que nous avons de penser le monde, cette pensée doit être en mouvement, doit être en questionnement, doit être en mouvement perpétuel, et que l'humour vient voir comment nous sommes capables de questionner notre questionnement. Je voudrais commencer par une petite blague avant d'aller plus loin. C'est la blague du tapissier. Peut-être que vous la connaissez, elle est tout à fait importante. C'est un monsieur qui emménage dans un appartement. Il envisage de tapisser son salon. Et puis, cet acte lui pose quelques soucis. C'est compliqué de mesurer la hauteur des plafonds. Il trouve plus sa solution, donc il se dit, mais au fond, c'est bête. Je vais demander au voisin d'en haut, il a le même appartement que moi, il a dû certainement résoudre le problème. Donc il va chez le voisin du haut, il sonne chez le voisin du haut, il dit, bonjour monsieur, je suis votre nouveau voisin. Je suis fermant d'origine, donc je peux le dire. Il dit, ouais, bonjour monsieur, il dit, ouais, voilà, je viens d'emménager dans mon salon, là je voudrais le tapisser. Combien vous avez utilisé de rouleaux? Ah, j'ai utilisé 12 rouleaux. Ah, merci beaucoup, monsieur, c'est sympa. Puis il va acheter ses 12 rouleaux, il tapisse. Et puis quand il a fini, il en reste 3. C'est étrange, quoi. Il retourne chez son voisin. Et à son voisin, il dit, mais enfin, je vous ai demandé, vous vous souvenez? Oui, je me souviens bien. Vous vous souvenez, vous avez des 12 rouleaux, vous avez. J'ai 3 rouleaux de trop. Allez, vous aussi. À la limite, je ne devrais pas vous en dire beaucoup plus. Dans cette petite historiette se trouve tout ce que je veux dire. Et donc, je voudrais vous demander si dans la salle, il y a quelqu'un qui a le signe du Sagittaire. J'ai jamais fait ça en public, hein, mais est-ce que quelqu'un a le signe du Sagittaire? Ah,
pas de chance. Hein.
Non, pas de chance, monsieur. Pas de chance, je vais me permettre de vous lire votre horoscope, si vous voulez bien. Amour ou bien travail?
Amour.
C'est le pire, 5 sur 10.
C'est comme nous, hein.
Ah mais toi, tu dis pas ça.
D'accord.
C'est un peu de patience. C'est le titre générique. Il y a un petit triangle qui veut dire en progression. D'accord? En 2 triangles, c'est favorable. Et 3, c'est très favorable. Et vous, c'est en progression. D'accord? Donc, en amour, c'est climat toujours brûlant. Bien que les prochains jours seraient plus délicats à négocier. Plus délicats. Évitez de réagir à l'emporte-pièce, à la moindre contrariété. De toute façon, un redémarrage positif va s'amorcer ensuite. Je vous dis pour la santé?
Oui.
Quand même.
Attention à un geste brusque. Et question de travail, avancez avec prudence afin de ne pas commettre des erreurs parfois lourdes en conséquences. Évitez les initiatives intempestives, donc en gros, restez chez vous. Attendez plutôt d'avoir peaufiné votre stratégie. Tout vient à point à qui sait attendre. Ça va? Comment vous allez faire?
Rentrer chez vous.
Mais lentement. Comment vous allez faire?
Je me prépare.
Vous vous préparez. Est-ce qu'il y a dans la pièce quelqu'un qui est poisson?
c'est ça.
Mais pas toi.
Un autre poisson.
C'est mon épouse, donc un cap à franchir.
En amour,
un tournant important, mais pas facile à négocier, s'annonce. Ça passera ou ça passera pas?
Et tu utilises la conférence pour le dire, ça?
Ben oui, de toute façon, les esprits auront tendance à s'échauffer. Essayez de dénouer les difficultés sans pousser l'autre à bout. J'avais compris, j'avais lu sans passer à l'autre, mais enfin j'ai. Ouais. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire d'horoscope? Parce que, si vous aurez bien compris, dans l'horoscope, ce qui est quand même très intéressant, c'est que l'horoscope vous dit ce qui va vous arriver. Donc c'est un moment particulièrement génial, nous savons à l'avance ce qui va se passer. C'est absolument extraordinaire. Or en latin, astre, astrologie, astre, se dit sidus. Sidus, ça a donné dans notre langage quotidien des mots extrêmement importants. Le premier mot, c'est sidérari, qui en français est devenu sidération. Ça veut dire prisonnier des astres, incapable de s'extraire de notre destin, de notre enfermement astral. Ça, c'est le premier mot. Le deuxième mot, c'est considérari, considérer. Ça veut dire examiner avec soin, porter attention à son monde, regarder dans quoi nous sommes. Et un troisième mot, qu'en tant que psy, peut-être vous connaissez, c'est desiderari, desideration, ça a donné un mot que nous connaissons, c'est désir. Donc le désir, c'est la capacité de s'extraire des astres, c'est la capacité de s'extraire de son destin, c'est la capacité de s'inventer une histoire. Ce qui est très important dans cette idée, si vous voulez, c'est que lorsque l'on lit son horoscope, au fond, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous sommes en train de nous dire, de nous lire, de savoir ce qui va nous arriver? J'espère que non. L'idée, c'est, au fond, quand on lit son horoscope, on essaierait de voir à l'avance. Et au fond, on peut dire que le désir, ce serait la capacité que l'homme a de trouver cette créativité, cette liberté qui va lui permettre de s'extraire de son destin et de s'inventer une histoire. Pour poser les bases, je dirais, de ce qui permettrait une réflexion sur l'humour, il est important de poser une question fondamentale par rapport à cette notion d'histoire. La notion d'histoire, c'est ce qui va fonder l'identité de l'homme. Au fond, quand on regarde bien et qu'on fait notre travail de psychothérapeute, qu'est-ce qu'on fait? On rencontre les gens dans cette capacité qu'ils ont de se raconter, en se souvenant que l'histoire qu'ils vont raconter est une histoire qui est très très intéressante. Quand vous regardez bien, je ne sais pas si je t'ai raconté l'histoire de ce chef éducateur C'est une histoire que j'ai rencontrée dans une situation de supervision.
Je ne me souviens jamais des histoires.
Ça va. C'est, ça se passe dans un autre pays, donc je peux la raconter. C'est l'histoire d'un chef éducateur qui a de longs cheveux, dont la pointe est blonde. C'est très important. Je croyais d'abord que c'était un caprice, qu'il se teignait les cheveux en blond. Mais en fait, pas du tout. Quelle que soit la longueur de coupe, la pointe des cheveux devient blonde. Cet homme a une équipe dans laquelle il a plusieurs éducateurs et il vient d'engager un éducateur. Ça se passe bien, l'éducateur signe son contrat définitif et quelques semaines plus tard, sa femme accouche. Et toute l'équipe, sympathiquement, va accueillir ce jeune bébé, cette jeune mère et ce jeune père, rentre dans la chambre, regarde le bébé et est frappé de sidération et dit « Comment s'est passé l'accouchement ?» Parce que le bébé a des cheveux dont la pointe est bleue. Et donc la parole qui serait la première parole qu'on dit à un bébé quand il vient au monde, c'est « Oh, il ressemble à », ce serait de dire « Oh, il ressemble au chef éducateur ». Ce qu'on ne peut pas dire. On ne peut pas dire à une femme « Tiens, il ressemble au chef éducateur ». Cette histoire, c'est pour moi, est importante parce que quand on travaille en thérapie, je crois qu'une des premières choses qui se passe, oui, enfin, pour les éducateurs de la pièce, je m'en excuse. L'idée fondamentale, c'est que l'acte fondateur d'une histoire personnelle, c'est l'idée qu'un enfant, quand il vient au monde, la première chose qu'on va lui dire, la première parole qui fonde son identité, qui va l'inscrire dans l'humanité, c'est une parole de ressemblance. C'est une parole qui lui dit « tu ressembles à, tu es le même, tu es identique ». C'est une parole qui va venir dire comment il est semblable, comment il ressemble à ceux desquels il est issu. C'est une parole qui l'inscrit dans la ressemblance. Mais en même temps, il y a autre chose qui se passe. C'est que, au même moment que cette parole dit la ressemblance, dit qu'il ressemble à ceux, et d'ailleurs il va recevoir un nom de famille, il va s'inscrire dans la ressemblance, dans la filiation, on lui dit en même temps qu'il est particulier, qu'il est singulier, qu'il l'est comme personne d'autre. Donc cet acte fondateur de l'identité est une parole assez étrange, c'est une parole qui est une parole incompréhensible à la limite, puisque c'est une phrase qui dit « tu es comme nous, pas comme nous, tu es semblable, tu es même et différent ». Ce qui fonde donc l'histoire et l'inscription de l'homme dans quelque chose qui va fonder son humanité, c'est une phrase qui dit sa ressemblance et sa différence, qui dit « il est comme nous, il n'est pas comme nous, il est singulier et général ». Il y a donc là quelque chose de tout à fait fondamental dans l'identité, c'est une parole qui dit le paradoxe identité, pas un paradoxe en fait, c'est une aporie, c'est-à-dire une question sans réponse. C'est une question qui doit se reposer inlassablement, parce que la réponse qui sort de ce paradoxe apparent qui est l'énonciation d'une ressemblance et l'énonciation d'une différence, le fait d'être semblable à ses parents et différent de ses parents, d'être dans quelque chose qui inscrit la ressemblance et dans quelque chose qui inscrit la différence, il y a dans cette aporie quelque chose qui va fonder ce questionnement identitaire. L'homme devient homme à partir du moment où il a cette capacité de se questionner sur son identité, en sachant qu'il est à la fois capable d'aller vers les autres, de leur ressembler, de voir chez lui des choses qui ressemblent à ce qu'il voit chez les autres, de voir chez les autres des choses qui ressemblent à lui, c'est-à-dire d'inscrire dans le groupe, de s'inscrire dans l'appartenance, d'aller vers les autres et de voir que les autres peuvent se rapprocher de lui, et à la fois de pouvoir se singulariser, pouvoir se différencier, pouvoir s'écarter. C'est dans ce mouvement inlassable qui est une question sans réponse, une aporie, que va se fabriquer l'identité. Mais pas seulement. Ce qui va aussi se fabriquer, c'est que dans cette manière de dire à la fois le semblable, à la fois la ressemblance, à la fois l'histoire de l'être, ce qui est très important, c'est qu'on raconte une histoire. C'est que cette histoire vient dire comment l'individu, au fond, à qui on dit « tu ressembles et tu es différent », on lui raconte une histoire. Et cette histoire qu'on lui raconte est une façon assez géniale d'inscrire cet enfant qui naît dans du temps. Pourquoi tu souris quand je dis ça ?
Je ne peux pas te le dire, vraiment.
Tu ne peux pas, dommage. Et donc, cette histoire qu'on lui raconte, c'est dommage parce que ça m'intéressait. Cette histoire qu'on raconte, pourquoi après ?
Tu me diras, heureusement tu ne l'as pas dit.
D'accord, ça va. Cette histoire qui est racontée, cette histoire qui est proposée, est une histoire qui est singulière. C'est une histoire qui est faite de transmission et d'oubli. C'est-à-dire quelque chose de très singulier. Les parents vont raconter à cet enfant son histoire, ce qui va permettre à cet enfant d'apprendre 1000 choses sur lui, qui va permettre à cet enfant de savoir que son histoire commence bien avant sa naissance, que son histoire s'inscrit dans d'autres histoires, qu'elle se complexifie à l'envi, qu'elle s'inscrit dans du temps qui passe et qui fait que son histoire commence bien avant, est faite de tout ce qu'on a envie de dire à cet enfant, tout ce qu'on a envie de lui raconter, tout ce qu'on a envie qu'il sache, et puis aussi tout ce qu'on a envie qu'il ne sache pas, donc on va oublier de lui dire des choses. Et donc les mémoires familiales qui servent de structuration à cette identité se construisent dans une torsion très très importante qui est faite de narration, d'explication et d'oubli. Et on pourrait donc dire à la suite de Robert de Bourget que la mémoire est au fond une gestion adéquate de l'oubli, une gestion de cette capacité de dire et d'oublier, mais de ne pas oublier qu'on oublie, et donc de permettre à l'autre d'oublier qu'il oublie. Et de génération en génération, la mémoire se réécrit, la mémoire se transforme et la mémoire se transmet. Cette capacité de transmettre une mémoire est ce qui va permettre à l'individu de fabriquer quelque chose qui, moi, me passionne très fort sur le plan psychothérapeutique, c'est la capacité que l'homme a de s'extraire de l'instantanéité. C'est-à-dire qu'au fond, quand on accepte l'hypothèse que la construction identitaire se fait dans la narration, c'est-à-dire qu'on accepte de voir la famille comme étant un appareillage symbolique qui permet la transmission du temps, l'inscription dans le temps. C'est très important la temporalisation identitaire. C'est quoi ? C'est la capacité que nous avons de nous extraire de l'événementialité. C'est la capacité que nous avons de produire de l'épaisseur temporelle qui fait quelque part que nous ne sommes pas dans l'imminence de la mort. À chaque instant de notre identité, nous sommes au plus près ou à l'ultime moment de notre vie. Nous sommes tout le temps à cette proximité maximale de l'événement qui sera le dernier de notre vie. Nous sommes à tout moment, c'est pour mettre de l'ambiance. C'est juste pour... Mais t'as dit qu'il n'y avait pas grand-chose à manger. Donc il y a là, quelque part, quelque chose de tout à fait fondamental. Tout à fait fondamental. L'homme a cette capacité d'épaissir l'instant, de quitter l'événementialité, de quitter l'instant, et de s'inscrire dans quelque chose qui s'épaissit, c'est-à-dire dans quelque chose qui fait qu'on a une impression de temps qui passe. C'est-à-dire qu'au moment où je vous dis... La phrase que vous connaissez de ce poète chilien, « Le moment où je vous parle est déjà loin de vous », ce moment particulier où je vous dis quelque chose, l'énoncé même de la phrase s'inscrit dans le temps qui passe. Pour que chaque mot s'emboîte à l'autre, il faut que vous soyez d'accord de quitter l'instant de chaque lettre, l'instant de chaque mot, que vous soyez d'accord dans ce mouvement symbolique très complexe d'épaissir le temps, d'épaissir l'instantanéité, de commencer à construire un univers symbolique dans lequel les choses s'emboîtent les unes aux autres, avec une impression de temps qui passe. C'est donc extraordinairement important de comprendre que la famille est cet endroit qui va fabriquer la mémoire, qui va construire la transmission, qui va construire comment notre identité se fabrique dans cette narration de temps qui passe. On a donc, au travers de cette expérience singulière, une mémoire faite d'oubli, une mémoire faite de différentes choses qu'on nous a transmises, et une capacité à produire dès lors de la mémoire. Je ne sais pas si vous avez entendu ce qui se passe par exemple en Inde pour l'instant. L'Inde, qui est à ce moment particulier de son histoire, fabrique chaque année 200 archéologues, c'est-à-dire c'est le pays qui produit le plus d'archéologues au monde, qui fouillent les sols indiens à tour de bras, qui réinventent l'archéologie, qui fait que c'est le pays qui est le plus en train de visiter son histoire. Et tous les ministres qui sont à la base de ces projets disent inlassablement: il est extraordinairement important de nous approprier notre mémoire si on veut fabriquer du projet. Si on veut avoir un avenir, si on veut avoir une identité qui se projette, on doit avoir une mémoire claire, une mémoire construite. Il y a là quelque chose d'extraordinairement important. Alors pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce que je pense qu'il faut bien comprendre que la capacité que l'homme a de symboliser le monde est un mouvement dynamique extrêmement complexe. Si je peux donner du sens au monde grâce à cette capacité qu'on m'a transmise de penser, de réfléchir qui je suis, et donc de penser le monde, je peux au monde donner du sens. C'est comme ça qu'on dit, le monde a du sens. C'est très intéressant, ça veut dire que ça va dans une direction, ça va dans un sens. Ça veut dire symboliquement, les choses s'emboîtent d'un passé vers un futur, d'un espace vers un autre espace. Alors là, je vais essayer de faire avec vous quelque chose qui est peut-être un petit peu... la fonction de l'humour principale. Je voudrais vous demander si vous connaissez la différence qu'il y a entre une hermine et un ramoneur. Non ? Bon, je vous explique. L'hermine, c'est un animal tout blanc avec une queue noire. D'accord ? Un ramoneur, c'est un monsieur tout noir avec une petite échelle sur le dos. Là, les deux avait fait un autre chemin. Enfin, je crois. Je ne sais pas quel est ton avis là-dessus. Mais je pense que les deux là avaient imaginé que je n'aurais peut-être pas dit à M. Tounoir avec une petite échelle sur le dos. Peut-être que
grand,
vous aviez...
Grande échelle.
C'est un menteur d'être pris. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette petite historiette? C'est que je vous propose un protocole temporel. Je vous décris une histoire, je vous raconte une histoire inscrite dans le temps. Je vous dis, un monsieur tout blanc, tout noir, et par anticipation, vous allez, par structuration temporelle, par prédiction, comme avec mon horoscope, comme avec l'histoire que vous avez reçue, comme avec votre capacité de symboliser le monde, vous allez anticiper cette construction. Et donc, monsieur Filleul a pensé que j'allais dire avec une grande échelle, c'est ça?
Exactement.
Et une queue blanche, peut-être. Pardon ?
Par hasard et par exemple.
Comme tu es tout en blanc, c'est intéressant. Et l'idée fondamentale, c'est que l'humour vient se mettre dans cet instant particulier où nous avons construit quelque chose qui vient briser cette prédiction. La première fonction, et à mon sens la fonction la plus importante de l'humour, c'est la capacité de déconstruire, c'est-à-dire de venir totalement bouleverser nos constructions temporelles. Vous connaissez probablement cette historiette aussi. Ça se passe au Moyen-Âge. Les temps sont rudes, c'est un roi qui veut que sa jeune fille soit épousée. Donc il organise, c'est au Moyen-Âge, c'est très rude, il organise un concours où il propose que les meilleurs archers du monde, enfin de sa contrée, du coin, se battent les uns les autres pour remporter le mariage. Alors on met la future reine au pied d'un arbre, on lui met une pomme sur la tête, et puis les archers viennent les uns derrière les autres. Et le premier archer vise longuement et lâche sa flèche qui se plante en plein cœur de la pomme. Et il va chez le roi et lui dit « Hood, I'm Robin Hood. » Le deuxième archer regarde la situation avec un peu d'inquiétude et donc il vise longuement et il lâche sa flèche qui se plante en plein cœur de la première. Il va chez le roi et lui dit « Tell, I'm Guillaume Tell. » Le troisième arrive, il se trouve quand même un peu injuste. Il vise longuement et sa flèche se plante en plein front de la princesse. Et il va chez le roi et lui dit « I'm sorry, really sorry. » Vous comprenez bien, donc, quelque part, vous comprenez bien que la répétition de la structure narrative, I'm Robin Hood, I'm Guillaume Tell, fait que je vous emmène dans quelque chose qui est de l'ordre de la répétition. Cette répétition vous entraîne progressivement à produire, par cette répétition, une production prédictive, c'est-à-dire qu'on commence à créer ensemble, dans cette narration répétée, quelque chose qui nous emmène à penser d'une manière répétitive. Et la répétition, c'est très régulièrement ce que l'on va utiliser pour commencer à produire du sens. Dans l'expérience du monde, la répétition de deux choses font que peut-être ces deux choses se ressemblent. Si deux choses se ressemblent, je peux peut-être commencer à construire du sens, du lien. Je peux commencer à produire du symbolique par cette répétition. C'est particulièrement génial de pouvoir construire cette réalité en voyant ce qui se répète, ce qui se rejoue. Ce que je vois là peut peut-être là se répéter. Au fond, ce que peut-être est semblable deviendrait identique. Ce qui est donc capable de faire, ce qu'on est capable de faire par cette capacité à la répétition, c'est de produire, en quelque sorte, un univers du sens que je peux dès lors anticiper, que je peux dès lors commencer, par cette anticipation, à m'écarter de quelque chose qui est assez inquiétant. C'est ce que la modernité produit. La modernité, sur le plan sociologique, on pourrait dire, c'est la naissance du sujet, c'est la naissance de l'individu, c'est la naissance de la subjectivité, c'est la naissance de l'être. On n'est plus défini par un univers, on n'est plus compris dans un tout, on a une histoire singulière, on a une histoire particulière, on est un être différencié du monde. La modernité, sur le plan sociologique, c'est l'émergence de l'individu, avec l'émergence dès lors de quelque chose qui est très complexe. À partir du moment où on est inscrit dans une totalité, où l'on est un membre d'une totalité, notre vie fait sens parce qu'elle fait partie de cette totalité. C'est l'extériorité qui fait sens. On me dit, tu occupes cette place et on prend cette place. Et l'on est inscrit dans une globalité. La modernité vient faire rompre, on dit pas ça en français, vient brutaliser cette conception. On n'a plus une définition personnelle par extériorité, mais on va devoir s'accaparer, on va devoir créer sa propre identité, on va devoir être dans un mouvement extrêmement complexe de rapport aux autres pour être, à travers d'abord une identification, donc une ressemblance, donc du même, et puis une différenciation, donc de la différence, donc de la séparation. Et dans cette construction symbolique très particulière de l'être qui s'inscrit dans la ressemblance, qui s'inscrit dans la différence, il est extraordinairement important de savoir qu'il va, pour construire cet appareil psychique, s'inscrire dans la répétition. La répétition, si on n'y fait pas attention, est à la base de tous les intégrismes, est à la base de tous les totalitarismes, est à la base de tout ce qui peut faire la souffrance psychique dans la plus grande totalité, c'est-à-dire, au fond, il n'y aurait plus de créativité, il n'y aurait plus d'aléatoire, puisqu'au fond, tout serait jamais que la même chose. Donc l'humour, je crois, dans un protocole psychothérapeutique, peut être à un moment singulier où, dans la relation, quelque chose de répété se joue, quelque chose qui est de l'ordre de la répétition, quelque chose qui, dès lors, produit une vérité, produit un absolu, produit quelque chose qui est vrai par essence même, puisqu'il se répète. Comment venir questionner cette construction de pensée qui fait que la répétition vient donner sens et affirme cet absolu ? Une des manières, je crois, de pouvoir venir questionner cette construction de la répétition, c'est d'utiliser l'humour. Alors ici, nous sommes dans un lien où je ne peux pas l'utiliser puisque nous ne sommes que dans un lien éphémère. Mais imaginez un lien qui soit dans la répétition, un lien où vous pourriez dès lors, à la mesure des blagues que je vous raconte, en quelque sorte questionner cette répétition. Alors, je crois qu'il n'y a pas que cette fonction-là à l'humour. Il y a pour moi donc cette première fonction, cette fonction essentielle qui est de venir déconstruire la réalité, qui vient faire voler en éclats la réalité et qui, dès lors, à mes yeux, vient faire sens au fait que la mémoire est véritablement éclatée, explosée, mise en éclats, mise en morceaux par ce moment particulier. Je ne sais pas si vous avez déjà pu, dans des moments de rencontre thérapeutique, vivre ces moments particuliers où il y a du fou rire, où il y a du rire, où il y a tout à coup quelque chose qui vole en éclats. Alors je pense qu'il est extraordinairement important de faire extrêmement attention à tous les mots. L'humour, c'est quelque chose où on rit, mais on ne se moque pas. C'est facile à dire, mais la moquerie est un phénomène extrêmement disqualifiant. Se moquer, c'est rire de l'autre en se mettant dans une position haute. C'est naturellement absolument pas ça, avoir de l'humour. L'humour, c'est quelque chose qui consiste à rire ou de la relation, ou de soi dans la relation, et de s'utiliser soi dans un protocole. Et donc je pense que la première fonction est donc de venir faire voler en éclats la mémoire au travers de cette déconstruction. Il y a une deuxième chose que je crois être extraordinairement importante dans la fonction de l'humour, c'est de dire l'indicible. C'est de dire l'indicible. Je voudrais que vous vous rappeliez ce qui s'est passé autour de Julie et Mélissa, par exemple. Quand en Belgique est arrivé cet événement absolument impensable, dans les jours qui ont suivi, est apparu des blagues absolument incroyables. Je ne sais pas si vous vous souvenez, des blagues absolument incroyables. Alors je voudrais essayer de le faire avec vous et donc de vous choquer. Donc je vais vous raconter une blague choquante. Jérôme, tu es d'accord ? Tu trembles un peu. Pourquoi ? Ça se passe dans une église, toujours, et c'est un jeune curé. Ce jeune curé est dans son confessionnal, c'est le premier jour de boulot, il manque un peu d'entraînement. Arrive une femme, toute tremblante, un peu blanche, qui se met dans le confessionnal et qui dit d'une voix pas trop ferme, Monsieur le curé, je voudrais me confesser. Oui, ma fille, je vous écoute. Voilà, mon mari m'a demandé de lui faire une fellation. Je l'ai faite et je viens chercher ma pénitence. Le curé est là, dans son confessionnal, son premier jour de boulot, sa première cliente, il est vraiment ennuyé, il ne sait pas quoi. Et donc il dit, écoutez ma fille, réfléchissez quelques instants, je vais méditer de mon côté. Il va à la recherche de l'ancien curé en disant, ça demande de l'expérience. Donc il va à la recherche de l'ancien curé qui est sur le point de partir, qui fait ses bagages. Il va partout, il ne le trouve pas. Alors, il va dans l'église et puis il va dans la cure et tout à coup il tombe sur les enfants de cœur. Tu la connais, Et les enfants de chœur sont en train de préparer les appareils de l'église, quoi. Et là, le jeune curé, n'ayant personne d'autre sous la main, dit c'est un peu fou, mais enfin, qu'est-ce qu'il donnait l'ancien curé pour une pipe? Et là, les deux gamins répondent oh, deux bounty. Alors, je voudrais simplement vous imaginer que ce soir, je sois venu. Vous ne l'attendiez pas, ça. Hein? Donc, Jérôme, comment ça va? Ça va? Ça va? Tu vas. Tu regrettes pas trop quand même de bon. Oui.
On va peut-être censurer ça sur le MP3. Hein.
Mais qu'est-ce que tu vas en faire exactement?
Ça va être diffusé en boucle
internationalement.
Oui.
D'accord.
Bon. À ta santé.
Jamais je n'aurais pu ce soir vous raconter comme ça, en toute légèreté, une histoire aussi incroyable que celle que je viens de vous raconter. Cette blague, qui est très audacieuse, j'en ai préparé d'autres, mais vu la tête de Jérôme, je m'arrêtais. Cette blague dit en quelque sorte quelque chose que je ne peux pas dire sous autre forme. La blague va être une métaphore qui va permettre de raconter, d'aborder et de faire sur le plan psychique quelque chose qui est tout à fait étonnant, c'est-à-dire que cette blague va faire qu'on va rendre pensable, qu'on va rendre parlable, qu'on va rendre partageable quelque chose d'innommable, quelque chose d'impensable, quelque chose qu'on ne peut pas partager. Comment nous sommes-nous débrouillés pour penser Julie et Mélissa? Comment sommes-nous débrouillés pour penser le nazisme? Je ne sais pas si vous avez déjà pu travailler avec des familles juives où l'on raconte la Shoah, et c'est rare que la famille ne vienne pas à un moment ou à un autre vous chercher, vous raconter des blagues absolument incroyables où on va rire de la mort, on va rire de l'impossible. Tout à l'heure, je vous disais que quand j'ai travaillé en séropositivité, je n'ai jamais entendu autant de blagues sur la mort, sur la souffrance, sur la déchéance corporelle, et je n'ai jamais autant entendu de rire qu'à cet endroit-là. Mais de temps en temps, ce qui était le plus troublant, c'est que la personne qui me racontait cela, c'était pas un collègue, c'était quelqu'un qui était en train de souffrir l'impossible, qui était en train de voir son corps partir, qui était en train de voir son corps se déliter, se déformer, et qui me racontait des choses aussi incroyables. Alors la question, c'est est-ce qu'on peut s'autoriser à rire? Alors au début, j'osais pas rire avec ces hommes qui me racontent, ces femmes qui me racontaient l'horreur la plus complète, jusqu'au moment où j'ai pu constater qu'en fait, en riant avec eux, on va commencer à parler l'impossible, on va commencer à parler de la mort, mais d'une manière qui la rend tout à fait racontable. Hein, j'ai un jour un monsieur qui m'a dit oui, je sais que la mort ça existe, on m'en a parlé, moi personnellement j'ai jamais rencontré. On a commencé à pouvoir en rire, à pouvoir raconter des choses absolument terribles, mais d'une manière très métaphorique. La métaphore, c'est quelque chose d'exceptionnel sur le plan clinique. C'est quelque chose d'exceptionnel puisqu'une métaphore, une blague, c'est quelque chose qui prend des morceaux de vérité et qui met tous ces morceaux ensemble pour faire de cette histoire une autre histoire, qui est notre histoire, mais qui n'est pas notre histoire. En quelque sorte, la blague va remplir sur le plan clinique ce que peut-être sur le plan sociologique on pourrait donner au théâtre. Quand on va au théâtre et qu'on regarde une comédie ou une tragédie, on voit une histoire qui n'est pas la nôtre. Et pourtant, cette histoire, c'est la nôtre. On regarde des portes qui claquent, on voit des hommes qui trompent leurs femmes, on voit des femmes qui trompent leurs hommes, on voit des couples qui se déchirent, on voit des histoires absolument terrifiantes. Ce n'est pas notre histoire. Et pourtant, cette histoire va rentrer en nous, va produire sur le plan de l'association toute une construction, une déconstruction, et va nous permettre de penser toute une série de choses impensables. À ce titre, et c'est pour ça que je me suis permis, Jérôme, de te demander si tu étais d'accord que je raconte cette blague choquante, c'est qu'étymologiquement, l'insolence est issue du même mot qu'insolite ou qu'insulte. Et ça vient de solaire. Solaire, ça veut dire avoir l'habitude. Donc l'insolence, c'est rompre l'habitude. Donc mes deux manières de dire l'humour, à la fois de déconstruire et de relativiser, ou de rompre avec l'habitude. En quelque sorte, l'humour aurait pour fonction principale sur le plan thérapeutique de permettre à la fois de déconstruire nos modèles de pensée, à la fois de déconstruire nos manières de nous protéger de la souffrance, à la fois de créer un mouvement qui fait qu'on réintroduit de la pensée. Quand il y a de la répétition, quand il y a de l'impensable, il n'y a pas de pensée. Quand on est dans quelque chose qui sans cesse se rejoue, fait qu'il y a des affirmations de vérité, qui sont des affirmations de vérité qui se tautologisent, ce qu'on dit pas ça en français, qui se répètent, on n'est plus dans la pensée, on n'est plus dans la créativité, on n'est plus dans l'invention, on est dans quelque chose de figé, on est dans quelque chose qui s'installe, qui est une sorte d'intégrisme, de rigidité, de froideur de la pensée. Si on peut réintroduire de l'insolite, si on peut venir introduire de l'éclat, si on peut venir bouleverser cette organisation, sur le plan psychique, on va profiter d'un moment tout à fait singulier, d'un moment où il se passe quelque chose qu'on ne peut pas prédire. Alors je pense que c'est pour moi la chose la plus importante. Je suis très horrifié, par exemple, par ce qui s'est passé autour de l'assassinat des 5 enfants à Nivelles. Vous vous souvenez, ces 5 enfants se sont fait tuer par leur mère. Et le lendemain, sur toutes les chaînes de télévision et toutes les chaînes de radio, on a invité des psys. Et on a entendu assez rapidement venir sur la surface, c'était un suicide, j'ai oublié le nom maintenant.
Altruiste.
Un suicide altruiste. Et c'était fini. On était devant quelque chose d'incompréhensible. Comment comprendre cette scène? Alors on a des hypothèses simples, c'est une mauvaise femme. Elle a épousé un Marocain. Elle est sous l'influence néfaste d'un médecin généraliste. Et puis il y a quelqu'un qui est arrivé qui a dit « c'est un suicide altruiste ». Il est venu mettre une vérité qui s'installe comme un tout et qui fait que donc maintenant cette femme a tué ses 5 enfants par altruisme dans une souffrance psychique importante de type dépressif. On n'est plus dans le questionnement, on n'est plus en train de se demander ce qui se passe pour qu'une femme puisse à un moment particulier de sa vie en arriver à cette histoire. On est plus tous, nous, psy, hommes de la vie, du quotidien, de la rue, en train de se dire « mais qu'est-ce qui se passe pour que notre société, aujourd'hui, puisse rencontrer ce genre d'événement ?» On n'est plus en train de se dire « comment on doit être mère, comment on doit être père, comment on doit faire famille ?» On n'est pas tous autour d'une table en train de se dire « on va réfléchir à ce qui se passe ». On ne va pas s'approprier cet événement en disant « mais au fond, quand une femme tue 5 enfants à Nivelles, peut-être que moi j'ai à me questionner sur ma manière d'être homme dans cette société, sur ma manière de faire partie de ce groupe, sur ma manière d'être père, sur ma manière d'être époux. » Non, c'est un suicide altruiste. Et bien voilà, c'est un suicide altruiste. J'ai longtemps fréquenté des femmes qui avaient tué leur enfant et tous les rapports d'expertise expliquaient comment ils étaient arrivés à tuer leur enfant. Dans mes lectures, une des lectures qui m'a le plus troublé, c'est une lecture de Primo Levi, qui revient des camps de concentration, et à la fin de son livre, dont le nom m'échappe d'ailleurs, si c'est un homme, merci, à la fin de son livre, cet homme se pose la question de savoir s'il comprend le nazisme. Et les pages entières de réflexion de Primo Levi portent sur « puis-je comprendre le nazisme ?»« Puis-je comprendre ?» Et puis il dit non, je ne vais pas essayer de le comprendre. Parce qu'au fond, si je le comprenais, j'arrête ma réflexion. C'est un peu comme si, dès lors, il n'y a plus à s'approprier cette question. Je crois que l'humour vient dire la position du thérapeute. Je ne pense pas qu'un psychothérapeute puisse ne pas avoir le sens de l'humour. Avoir le sens de l'humour, c'est aller à contresens. Je voudrais encore essayer, d'une manière ou d'une autre, de vous le raconter. C'est Johnny Hallyday qui est avec son fils David. Ils sont sur la plage.
C'est toujours les mêmes.
Ouais, c'est sympa de ta part. Et Johnny est avec son fils David, et David dit, regarde papa, des bateaux. Et Johnny lui dit, écoute mon fils, c'est pas de bateaux. Il parle comme ça, Johnny, c'est pas de bateaux, c'est des yachts. C'est des yachts, papa? Ouais, c'est des yachts. Comment t'écris ça, papa? Ouais, t'as raison, c'est des bateaux. Ça ne sert à rien qu'on vienne proposer des réponses. Le métier de psy, ce n'est pas de proposer des réponses. Ce n'est pas d'être dans une position de savoir, venir proposer une réponse qui serait une sorte d'explication. Je trouve qu'il y a une dérive majeure. Je trouve que de demander à un psy d'expliquer le monde, c'est la pire des choses. Parce que s'il répond à cela, il risque à tout moment de capturer la pensée de l'autre et de la figer, de l'enfermer. Lorsqu'on s'autorise à avoir le sens de l'humour, c'est-à-dire que lorsqu'une question se pose, plutôt que de la construire, de fournir une réponse, on crée un événement, un moment, qui vient tout à coup déconstruire cette question
pour se l'approprier, c'est-à-dire être dans une position extrêmement humble, même si c'est quelqu'un qui a peut-être cette capacité dans son travail psychothérapeutique de réintroduire ce que Marc-Alain Wapner appelle de la couabilité, du questionnement, du doute, de l'interrogation, de l'incertitude, de venir briser cette construction temporelle. Je pense que le symptôme est une production du temps qui radote, qui vient se figer. La chronification, c'est la répétition inlassable d'une réponse qui est toujours cette réponse et qui apparaît comme une vérité. Si on peut, dans la relation, lorsque le lien est suffisamment solide et respectueux, venir se promener du côté de la surprise, de l'étonnement, grâce à l'humour, on peut créer des moments où tout à coup cette répétition s'estompe. Les deux signifiants sur lesquels se construit l'humour, c'est d'une part la curiosité et d'autre part l'étonnement. Je pense que tout protocole thérapeutique, et probablement que dans l'éthique, dont les deux orateurs de la prochaine fois viendront parler, dans l'éthique, comment être thérapeute si on n'est pas curieux ? C'est-à-dire, la seule manière d'être neutre, la seule manière de véritablement s'interroger sur quelqu'un, c'est de pouvoir être curieux. C'est de pouvoir s'étonner de tout, questionner tout, et faire tout voler en éclats. Et il me semble que l'humour, très humblement, ou le temps a filé, je vais te laisser un peu la parole.
C'était prévu comme ça. Hein.
Mais je vais un peu te laisser la parole. Je pense quelque part que l'humour a cette fonction de venir donc produire cet événement singulier où dans une position extrêmement basse, extrêmement humble, extrêmement petite, on vient, déconstruire. Et je terminerai, moi, sur une petite histoire personnelle, un peu, que tu connais.
Encore une ?
Ouais. Ça se passe avec un ami. On est à une soirée, il y a très longtemps de ça. On est à une soirée où je suis un peu saoul. Mon ami est un peu sous. C'est un psychanalyste, mon ami. C'est très important. Et nous sommes tous les deux un peu
sous. Beaucoup sous.
Souvent, oui. Et on déconne, mon copain et moi. Et arrive un troisième ami, qui est plus sobre. Et il vient et il nous parle de choses un peu plus sérieuses. Alors nous, on était en train de déconner. Et il nous dit, j'ai acheté une maison. Oui, il a acheté une maison, et puis j'ai un grand jardin. Et puis il nous dit, je vais faire un verger dans mon jardin. Et je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé. Je ne peux pas véritablement vous dire ce qui s'est passé. Je ne sais pas très très bien comment les choses se sont emboîtées. Je ne sais pas si c'est mon ami ou moi. Mais l'un des deux a dit à l'autre, est-ce que tu sais que pour que tes arbres poussent de 10 cm par semaine, il faut que tu mettes du sable au pied de chaque arbre ? Et l'autre, instantanément, a dit, ah oui, du sable du Rhin, en cône. Je ne sais pas si vous imaginez la scène. Moi, je ne sais pas ce que c'est un sapin. Mon copain, il habite bien haut dans un immeuble. On est un peu bourré. Et on déconne tous les deux sur le fait que pour faire pousser des jeunes arbres de 10 cm par semaine, il faut mettre du sable du Rhin au pied de chaque arbre. Et il nous croit. Je n'ai pas compris pourquoi. Quelques semaines plus tard, quelques temps plus tard, il nous téléphone et il nous dit, j'ai fait ce que vous m'avez dit. Quoi ? J'ai mis du sable et du Rhin. Là, j'aurais dû dire, écoute, on a déconné, on était bourrés, mais non, j'ai rien dit.
J'ai pas osé.
Enfin non, c'est un moment de lâcheté. Et merci de le rappeler. Et puis je vois mon copain et je lui dis, et t'as dit toi ? Il dit non. Je dis, qu'est-ce qu'on fait ? Alors on est allé enfoncer les tuteurs.
Toutes les nuits.
Pendant on est allé un soir, on a enfoncé les tuteurs de Dignan qu'il avait mis du sable, les arbres et les tuteurs, il avait fait une petite marque. Donc on a enfoncé les tuteurs. Et puis il nous téléphone, 2-3 jours après, il nous téléphone, il dit, ça marche ! Ah bon ? Bon, c'est bien, hein ? Et puis on est retourné. 3 semaines. C'était devenu impossible parce que les tuteurs se tordaient. Il fallait faire. On avait appel à des copains musclés pour enfoncer les tuteurs. On avait des gros marteaux. Et les arbres jaunissaient parce que le sable du Rhin, ça tue les arbres. Il ne faut absolument pas faire ça. Mais le copain en question ne le voyait pas. Pour lui, l'arbre poussait. Et à vrai dire, si vous réfléchissez bien, c'est, à part si vous avez deux copains connards, c'est impossible que s'il y a un écart entre une référence et un tuteur, c'est impossible que le tuteur s'enfonce. Il ne peut y avoir que l'arbre qui pousse. Alors, à un moment, un copain, un vrai copain, est arrivé et il a dit « C'est quoi ce petit machin tout tordu sur le côté ?» Et ça a été instantanément fini. Instantanément, l'existence du tiers a créé un moment où il a réintroduit de la cohabilité, du questionnement, du doute. Il est venu faire un moment où il a fait voler en éclats la pensée ou l'impensable. Et instantanément, il a été fâché sur nous. Ça nous a coûté quelques arbres parce qu'ils sont tous morts, quelques années où il nous a regardés avec suspicion. Mais cet instant particulier, ce moment où il y a quelqu'un qui vient et qui dit « C'est quoi ce machin ?» qui vient et qui questionne ce moment-là est un moment d'humour, c'est-à-dire c'est un moment où sa construction du monde, où sa pensée du monde, où sa prédiction du monde vole en éclats. Et l'humour, je crois, est ce moment particulier où l'on peut faire éclater notre pensée. Voilà, c'est ça que je voulais proposer comme réflexion. Peut-être que toi, tu veux en dire quelque chose.
Bien. Ça va. On est dans les temps, c'est ce qui était prévu, donc... Je suis invité à faire le bouche-trou, enfin en tout cas c'est comme ça que je le sentais dès le début en me disant « Mais Jean, il est impossible d'arrêter, et c'est très bien comme ça. »
Je n'ai pas vu bouche-trou, tu sais.
Non, je parlais de moi. Hein.
Oui, non, mais sexuellement je parlais de moi.
Oui, je n'ai pas parlé de boucher-ton trou, bouche-trou, c'est pas grave. Mais donc, en soi aussi, par rapport à la préparation, parce qu'on a parlé de dialogue, hein, donc on s'était dit « préparer oh, » Aude m'avait dit, qu'elle t'avait dit, que j'allais t'appeler.
Oui, mais elle ne l'a pas dit.
Et tu as dit pourquoi? Ah, tu as menti alors.
C'est Jérôme qui a dit.
Ah oui, bon, enfin, on a dit qu'il avait dit pourquoi. Donc, c'est que ça ne sert à rien, effectivement, puisque de toute façon, 3 semaines à l'avance, il ne va pas savoir me dire de quoi il va parler. L'horoscope, ce sera le signe des télé-revues de la veille, donc on verra bien. On va essayer d'être dans l'imprédictible et de se laisser surprendre. Puis pour une fois, je pouvais t'écouter. Ça faisait longtemps que je voulais te faire parler sur l'humour en psychothérapie. J'ai toujours raté. Pour de multiples raisons. Là, aujourd'hui, je suis aux premières loges, en plus, ça s'en payait. Donc, je m'étais aussi préparé quand même à me dire, ben, si jamais, je te le disais il y a un instant, là, c'est, il y a une heure, que si jamais, on ne sait jamais, une petite crise de mutisme arrive, j'ai quand même quelques fils conducteurs à présenter. Tu n'as pas eu ta crise de mutisme, j'aurais été surpris, là, vraiment. Donc, je ne vais pas reprendre tout ce que j'ai, je vais dire, synthétisé. J'étais tombé par hasard sur un article, je vais reprendre juste les grandes lignes parce qu'ils rejoignent sur des thèmes plus techniques, moins agréables sans doute que ce que tu évoques. Mais donc, pour essayer quand même de me préparer, je ne vais pas vous dire quand, mais en tout cas, pour essayer de me préparer, j'étais sur Internet. C'est Google, vous savez, Google. Donc, vous mettez, alors j'ai fait Jean Van Emmerich, humour, psychothérapie, en me disant, il y a peut-être un article qui traîne. On m'avait dit que non, mais enfin bon, c'est jamais. Eh bien non.
Non.
Désespérément vide. Il parle, mais il n'y a pas d'écrit, en tout cas sur Google.
Sur le rien du tout.
Mais Jean Van Emmerich apparaît, hein. Tu es promoteur d'un mémoire, d'un faire psycho, tu es sur un tableau, du ciel, ça va rechercher ton nom n'importe où. Hein. Donc va voir, c'est intéressant. Mais voilà. Donc, j'ai supprimé Jean Van Emmerich. J'ai laissé humour psychothérapie en me disant, bah, parce que lui n'a rien laissé, je vais voir si d'autres. Alors là, ça foisonne. Parce que j'ai retiré un critère sélectif qui était toi. Donc. Et donc, alors là, c'était embêtant, c'était dans l'embarras du choix, tellement, mais il y avait un article qui s'appelle « L'humour en psychothérapie ». Donc je dis, bah, on va essayer de se le procurer, il est tout récent, d'un certain Christophe Panicelli, qui vit à Bruxelles en plus, et article qui a été publié, donc tu es au courant, parce que tu es cité dans les remerciements. Ah, tu n'as pas lu.
Voilà, on a ça a été un assistant.
Ouais. Bref, et donc, pour m'occuper, pour m'inscrire, j'ai lu cet article que je vous recommande, les références sont là, c'est Thérapie familiale, le dernier de l'année 2006. Alors, je ne vais pas reprendre le tout, mais il y a quelques points, donc, pour faire très très court, parce que là, il parle spécifiquement de la position de l'humour en psychothérapie et de l'utilisation de l'humour en psychothérapie, et fait un parallèle avec le recadrage. Et il parle de différents points qui sont communs, et je ne vais pas commencer à faire le parallélisme, je vais simplement citer 3 points, où il dit que... en termes de recadrage et l'utilisation de l'humour aussi, a 3, on va dire, fonctions, mécanismes qui met l'un après l'autre, utilité, peu importe son terme, son technique, mais c'est un, amener le patient à une nouvelle position d'observation, par un biais qui est de provoquer l'étonnement, et à partir de ça, après ça, avec ces deux mouvements-là, de pouvoir permettre de réinterpréter les données de départ. Alors, quand j'entendais ce que tu disais par rapport à une série de choses que tu as amenées ici, je retrouvais, mais en d'autres termes, ces mêmes points. Donc, ça m'interpellait, parce qu'en fait, je ne vais pas dire que tu dis la même chose ou que lui dit la même chose que toi, pas du tout. C'est plus rigolo de t'entendre que de lire un article, parce que voilà, il y a les blagues, même si certaines se répètent.
J'en ai une nouvelle, mais Jérôme a l'air tellement effrayé que je n'ose pas
les... Non, mais les Bounty, celle-là, je ne la connaissais pas.
Ah bon.
Mais par contre, l'échelle, l'hermine, oui.
Vous savez,
et pourtant,
c'est
ça fait rire à chaque fois.
Elle est super.
Ah oui, à chaque fois. On va beaucoup connaître la fin. Et puis, il y en a toujours qui se font prendre. Donc, il y a donc cette notion, là, tu dis, de faire voler en éclat. Rire en éclat, faire voler en éclat la réalité. Et effectivement, c'est une fonction d'humour. Donc, pour provoquer les, dans cette notion de provoquer l'étonnement, et de remettre dans une nouvelle position d'observation, c'est-à-dire de pouvoir créer des nouvelles dimensions possibles. C'est-à-dire, effectivement, il y a cette répétition où on, parce que nous aussi, en soi, la preuve, donc nous aussi, mais les patients, dans le cadre de notre travail thérapeutique, soit en individuel ou en couple, on voit bien qu'il y a des choses comme ça qui se répètent, et où l'un ou les deux, lorsqu'il s'agit de couple, on est vraiment enferrés, sont enferrés dans une vision comme ça. Et se décaler de ça, surtout dans les couples, est extrêmement difficile, épouvantable. Quand je dis épouvantable, c'est parce que, aussi, nous, ça devient parfois lourd. Et j'ai remarqué que cette, effectivement, dimension d'humour, que finalement, on utilise quand même beaucoup dans notre pratique. On est dans une unité d'hospitalisation, les troubles de l'humeur, je précise pour ceux qui ont vraiment cru que c'était les troubles de l'humour, les troubles de l'humeur, c'est une classe, il faut mettre les gens en case. Voilà. Mais vraiment des effets effectivement très très surprenants par rapport à justement cette position de décalage, de faire voler en éclat, voilà ce mot-là, se faire voler en éclat une réalité, une mémoire, une répétition. J'ai quelques exemples, je ne vais pas tous les citer parce qu'évidemment en y réfléchissant, je me dis tiens, il y a des situations comme ça, ou a posteriori, parce que ce ne sont pas des techniques, la question de l'humour en psychothérapie, c'est tiens, je vais en placer une bonne à cet endroit, essayer, ça ne marche pas, c'est comme si on voulait faire du Van Hemelrijk ou du Neuburger. De l'Ekaïm, c'est un flop. C'est-à-dire, il faut sentir ce que vous pouvez effectivement vivre à cet instant-là et dans ce moment-là. Voilà. Ça, on ne va pas répéter ça. Mais il y a un exemple qui me frappait parce que c'était vraiment pas du tout voulu et en fait, c'était la seule, par rapport justement à cette notion, à faire voler quelque chose en éclat. Un patient que je voyais, peu importe, très court, seul et qui depuis quelques mois.
Il faut vous entendre vraiment
très bien. Ok, je vais essayer, mais ça va être difficile. Donc, on parlait d'un patient que je voyais depuis un certain temps, donc environ 6 mois, et qui amenait régulièrement, au-delà de toute une autre histoire, cette inquiétude permanente qu'il avait face aux choses, à la vie, tout le temps, enfin, c'est en filigrane comme ça, cette peur permanente, constante et lourde. Parce qu'effectivement, on sentait les choses figées, et puis il amenait les difficultés de travail, peu importe, mais avec cette inquiétude permanente. Et puis un beau jour, il travaille en informatique, il est au départ architecte de formation. Et puis, il vient à mon bureau, c'est un moment où voilà, il venait à la clinique où je travaille, il y a des travaux et il y a un couloir plutôt sordide. Pour vous. C'est vrai qu'il y a des travaux et un couloir qui est un petit peu un peu amoché, on va dire. Il rentre dans mon bureau, c'est pas le couloir pour venir chez moi, mais il avait un peu traîné en attendant parce que j'étais en retard, absolument. Et il me dit, s'assied, il dit, dites, vous n'êtes pas inquiet pour le couloir là. Le couloir pour aller au fond, ces jours, il va s'écrouler. Je me dis, bon, il y a des travaux, peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe, on ne sait jamais. Hein? Bon. Je dis, mais quoi le couloir? Il me fait voir, il n'est pas droit, il y a une faille. Alors, enfin, je fais ce que je veux, pas souvent, je me dis, allons voir, parce que quand même, il y a des travaux. Si ce couloir s'écroule après, j'aurai l'air malin aussi. Donc, on y va, c'est à 10 mètres, et puis il me montre, et puis il y a le couloir, et je vous rassure, il n'est pas prêt de tomber, qui est comme ça, et puis il y a une faille, comme ça, c'est la même chose, une faille comme ça, mais qui était là depuis que j'y travaille, elle est là, c'est une vieille faille dans un vieux mur.
Une vieille faille.
Oui, vieille. Alors, il dit, vous voyez, et puis je ne sais pas, il y avait quelque chose de dérisoire. Et en même temps d'énormes dans cette... Enfin, vraiment, là, avec les pieds sur terre, il n'y avait vraiment pas de quoi s'inquiéter. Et en même temps, je le voyais bien pris. Et je sentais à ce moment-là, j'ai vraiment senti ce mouvement dans lequel il y a en permanence, qui envahit tout. Et d'abord, c'est lui qui m'a surpris là. J'étais étonné par ça. Puis je l'ai regardé. Et il attendait vraiment, il était comme ça. Puis je dise, voilà, oui, effectivement. Et je n'ai rien. Enfin, j'ai regardé, j'ai eu un sourire par rapport. Et j'ai dit, mais là, je comprends mieux. Et il s'est sorti comme ça, je comprends mieux. Et puis on est retourné. Et puis dans le bureau, voilà, il a dit, il n'a rien dit au début. Et puis il a passé tout à fait autre chose. Et puis c'était en fin de séance, il a dit, c'est important de savoir que vous avez compris. Et puis je me dis, je ne sais pas, parce que moi, en soi, j'étais là tout à fait démuni, surpris, et un peu, voilà, et j'ai répondu comme ça de manière un peu nonchalante. Et c'est surprenant de voir comme, et le rendez-vous suivant, et tous les autres rendez-vous, après tout un temps, il a pu déconstruire justement cette angoisse permanente en disant, quand vous avez dit ça, j'ai vu qu'il n'y avait pas de raison à votre regard, à votre sourire, à la manière de le dire. J'ai dit, vous, c'était un peu comme une plaisanterie. Il dit, mais ça m'a fait comprendre, moi, j'ai compris qu'il y avait. Il y avait d'autres façons de le voir. Et que cette faille, finalement, c'était. Je l'apercevais comme ça, mais ce n'était pas obligatoirement la réalité. Et là, je résume, ça a pris un temps. Et c'est surprenant parce qu'il y a des moments comme ça où j'étais pris dans. Et je n'ai rien pu, moi, répondre d'autre que ça, cette phrase, un peu à la légère. Et il y a des tas d'exemples comme ça où. Voilà, moi, c'est ça, ça faisait penser à cette phrase de faire voler en éclats. Aussi au niveau de l'indicible, quand tu dis, permettre de dire l'indicible, tu parlais des plaisanteries là, assez innommables et pourtant qu'on fait. Voilà. Robert Burger avait. Enfin, moi j'ai fait une formation là chez Robert Burger et tout au début j'étais un petit peu choqué parce qu'on avait les couples qu'on voyait comme ça, ou les familles, et puis donc ils travaillent dans son bureau, puis on est de l'autre côté dans une pièce avec un écran et on est tous là au chaud, serré. Bon, c'est pas très confortable, mais peu importe, on regarde l'écran, et puis il arrive, c'est le maître quand même, hein, surtout quand on est tout jeune, et puis, donc le maître, et puis il arrive, et puis il sort, mais de ses. Il déverse dans notre petit local une agressivité, enfin des blagues, enfin, bourgeoise. Et puis on était très choqués, au début, comme ça, jusqu'à un moment où il a fallu que quelques-uns d'entre nous, on était un petit groupe qui se constituait, et puis on disait. C'est pas possible, enfin, où est-ce qu'on est. Et donc, certains volontaires tombent en disant, on voudrait vous dire quelque chose, là, ça va pas. Mais c'est, ce que vous faites, là, c'est choquant. C'est... Bon, je vais passer tout le détail d'abord de la première réaction, mais c'est indicible. Mais, au-delà de ça, il a vraiment montré, enfin, il nous a fait entendre, il nous a fait montrer aussi qu'il y avait, mais là, c'était un humour, avec une ironie qui n'adressait pas là aux gens, mais où la nécessité qu'il avait de pouvoir, en sortant de là, de le sortir, de le nommer, de dire cet indicible dans lequel, parce qu'il y avait certaines familles et couples plutôt épouvantables, dans l'ampleur de ce qui était amené, et cette nécessité de pouvoir s'en décaler et de pouvoir nommer les choses. Donc là, c'est un truc en dehors. Et en même temps, il y a toute une situation, une série comme ça de couples où, clairement, où on en a eu un récemment qui était quand même très surprenant par la force et la violence de ce qui se vivait. Et c'est vrai qu'au-delà du premier mouvement, ce qui a permis de faire justement travail et alliance thérapeutique avec cette famille, d'aller à la rencontre et ce mari, c'était un moment de prendre les choses avec plus de recul et avec un peu d'humour, qui finalement a tout à fait apaisé les choses pour lui aussi. Il se sentait très menacé. Et puis le fait d'emblée, effectivement, présenter un peu son position et tout ça a vraiment ouvert les choses.
Et là, tu parles de la capacité que nous avons de rire de nos passés, et de la possibilité, ou de rire de nous.
De rire de nous, oui, bien sûr. Bien sûr. Parce que c'était dans ce qu'on était impliqué. Je ne peux pas donner tout, enfin, ça serait trop long, mais je veux dire, ce qui avait été aussi très difficile, c'est cet entretien qui démarrait au d'emblée, disait, moi, je viens ici parce que toi, mais vous savez, moi, les psy, je ne les supporte pas, je les méprise. Je les méprise, voilà.
Est-ce que vous savez la différence qu'il y a entre un psy et un train?
Oui.
Non, quand il déraille, il s'arrête. Alors, c'est ce que je voulais essayer d'illustrer avec vous, c'est que dans un moment, on peut.
La mémoire. On va passer la parole à la salle quand même.
Oui.
La mémoire.
On s'arrête normalement à 9h30, donc si on peut avoir un petit.
Ça sera 5 minutes, tout à fait. la mémoire, quand tu parlais de... On ne va pas lancer tout le débat là-dessus, mais quand tu amenais cette question de à chaque instant, le dernier jour de notre vie ou le dernier instant de notre vie, et tu parlais de cette capacité à produire la mémoire, j'ai été frappé...
La durée.
Oui.
Donc de dépaissir l'instant pour être dans une impression de durée, construite sur une mémoire et un projet.
J'étais sur une autre idée.
Sorry.
Oui, pas de problème. Parce que après je donne la parole à la salle. Vendredi passé, il y avait un faire-part. Je regardais les faire-part, ça arrive. Les horoscopes, les faire-part. Et il y avait un faire-part très surprenant, justement, qui moi, là j'y repensais à propos de cette notion de mémoire, qui pouvait me faire penser à une blague. C'était, vous connaissez quand même tous les faire-part, donc c'est souvent des textes très longs avec Légion d'honneur, etc. Très long. Puis des très courts qui disent in memoriam, 10 ans, nous pensons encore toi. Et là, c'était une grande case comme ça, toute blanche, grande mais blanche, avec un nom, mon prénom, et puis au milieu, à le regret de vous annoncer qu'il n'est plus. Date de naissance et date de décès, c'est tout. Eh bien, c'était très impressionnant, parce que d'abord, il y a plein de questions, quoi, mais au niveau de cette capacité de laisser là quelque chose de mémoire, quelque chose qui va rester, de se créer, je ne sais pas, une existence au moment où ça s'arrête, parce qu'il est seul, on ne sait pas, parce que certains disaient, mais, enfin, c'est dramatique, c'est, je ne sais pas. Mais c'était extraordinaire comment un geste comme ça, très surprenant, très... Voilà, c'est tout ce que je voulais dire à propos de la mémoire, ça me venait à l'esprit. La salle.
Donc, merci, je pense qu'on a peut-être encore 2 ou 3 heures, on pourrait continuer à vous écouter. C'est vrai que l'objectif des dialogues, c'est aussi de vous donner la parole. Donc voilà, donc, la seule chose que je vous demanderais, c'est de pouvoir parler fort, comme ça on peut vous entendre, on peut entendre les questions et les réponses aussi sur l'enregistrement qui après mis sur le site du village de systémique.org via notre site aussi. Voilà. Est-ce qu'il y aurait des réflexions, des questions, des blagues sur cet exposé, ce dialogue?
Parce qu'une fois, en psychothérapie, le mot a été mal perçu ou
pas compris. Oui, tout à fait. Parce que tout à l'heure, Françoise disait « plus fort parce que j'entends pas
».
Et un jour, j'ai raconté une blague avec un couple que je n'avais pas en lien suffisant avec eux. Très rapidement, comme ça, l'idée légère m'est venue. Et c'est l'histoire d'un mec qui dit à un copain, tu sais, ma femme est sourde. Ah, il dit, bon, elle est sourde, et puis fait quoi? Il dit, je sais pas. Il dit, mais fais un essai, essaye de lui faire rentrer. Il discute, et puis il dit, tiens, au fond, je pourrais... Il essaye un truc. Il se met dans le jardin, il se met au fond du jardin, sa femme est à 30 mètres, et d'une voix normale, il dit, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Pas de réponse, quoi. Elle est sourde. Il vient à 15 mètres. Il dit, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Pas de réponse. Bon, il vient à 5 mètres. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Et là, sa femme se retourne et lui dit, pour la 3e fois, les spaghettis. Le lien n'était pas bien confin. Je veux dire, on était au début de notre relation de travail. Et ça n'a pas du tout bien pris parce que le type est arrivé en me disant vous savez, ma femme est chiante. Ma femme est chiante, ma femme. C'était cette construction très linéaire, très répétitive, qui était un absolu qu'il fallait d'abord. Et j'ai trop rapidement, je pense, dans ce lien, cru qu'on allait pouvoir travailler la circularité, ce jeu complexe qu'il y avait. Et le type est parti, et très judicieusement, il est parti, très fâché. Et je ne les ai jamais revus. Donc oui, absolument. Maintenant, j'attends 8 ou 9 ans avant de commencer. Mais je veux dire, oui, en effet, il y a des moments comme ça. Je pense que pour que l'humour puisse se faire, pour qu'on puisse utiliser son sens de l'humour, il faut que le lien soit vraiment affilié, qu'il y ait quelque chose de vraiment d'établi, et que l'autre vous laisse rentrer dans son psychisme, dans sa vie, dans sa construction, sans qu'il ait l'impression que vous soyez un iconoclaste ou un dévastateur. Il faut donc avoir cette autorisation. C'est pour ça que je me suis permis de demander à Jérôme s'il me donnait l'autorisation d'être en relation avec vous de cette manière-là.
Bon, c'est la 4e fois maintenant que tu l'as.
Je peux pas, mais c'est lui le président.
Oui, bien sûr, c'est pour ça.
Voilà. Ça s'adresse à la bonne personne.
Voilà, ouais. Pourquoi je dois le lâcher? Je crois que c'est bon.
Non, ça va.
D'accord. Et donc je pense, oui, que c'est vraiment quelque chose qui demande vraiment que le lien soit respectueusement établi et donc affilié. Comme tu veux dire.
Non.
Ce que vous venez de dire nous fait le lien. Est-ce qu'il y a alors un lien avec l'injonction paradoxale? Parce que dans ce que vous dites, à la fois, il y a les mêmes critères d'emploi, c'est-à-dire qu'il faut un lien pour utiliser a priori une injonction paradoxale.
Ouais, ouais.
Et en même temps, quand on voit les faits, ça brise aussi une répétition, puisque ça induit un... Il y a quelque chose de l'ordre de la rupture, de l'éclatement.
Ouais.
J'ajouterais l'injonction paradoxale et éventuellement la justification d'une divergence.
Mais c'est-à-dire que ce que moi je crois, si vous voulez, c'est qu'avec beaucoup d'humilité, je veux vous dire qu'il faut, être dans l'injonction paradoxale. Je ne connais pas bien l'injonction paradoxale. J'avoue quelque part que je l'ai lu, je l'ai un tout petit peu fréquenté en tant que psy, et puis je trouve que, bon ben voilà, c'est difficile à utiliser. Moi je trouve que dans l'humour, vous jetez quelque chose et puis vous ne savez pas trop ce qui va se passer. C'est-à-dire que c'est un moment où il n'y a plus... ce sens. Donc, tandis que l'injonction paradoxale est construite, enfin, quand on lit ceux qui le pratiquent, il y a comme une sorte de stratégie. C'est-à-dire, derrière ça, il y a vraiment un protocole stratégique. Ici, c'est un moment de suspension. C'est un moment où on produit de l'imprédictible. Alors que j'ai l'impression que dans l'injonction paradoxale, il y a comme une prédictibilité. Oui. Donc, pour moi, c'est probablement que les conditions sont les mêmes, mais que c'est pas le même événement qui se passe. Pour moi, c'est un événement imprédictible qui crée un moment de suspension où il va se passer peut-être quelque chose, ou peut-être pas.
Il y a un moment imprévu.
Il y a un moment imprévu. Ouais. Et je sais pas vous dire pour l'amplification des divergences. Je sais pas trop ce que c'est. Sans rire.
Mais tu racontes pas juste des blagues.
Non, je raconte pas de blagues. Je vais essayer de. Je vais essayer. Oui, je vais utiliser des blagues aussi. Je vais utiliser des blagues et, comme le dit Marc, des blagues des fois un peu répétitives.
Mais ça, c'est au colloque.
Non, mais c'est-à-dire que je vais essayer de rire de ce qui se répète. Donc je vais essayer. Mais pour moi, ça ne peut se faire que dans la condition où un, ça signifie que je sais pas. Donc je suis pas le psy qui arrive avec son savoir, enfin, j'espère que je ne suis pas là, et je vais essayer de saisir ce qui se joue. J'essaye de faire ça dans tous les moments où je travaille, j'essaye de faire ça dans les formations, j'essaye de faire ça dans les supervisions, j'essaye de faire ça également dans les conférences, en essayant de saisir au passage des moments qui en même temps peuvent... C'est pour ça que comment tu dis que je vais faire? Je vais arrêter de lâcher. C'est pour ça que je demande à Filleul s'il est d'accord que je... Donc d'essayer de saisir l'instant, ça a un côté, alors là c'est l'inverse de ce que je disais il y a quelques minutes, c'est que on s'attend pas à ce qu'un psy vous avez déjà vu les psys qu'on voit à la télévision, c'est pas toujours ou dans les films il y a un côté comme ça un peu sacralisé que je trouve extrêmement dangereux, et je pense moi véritablement que pour j'ai oublié de le dire tout à l'heure, je pense que l'arrivée de Sarkozy au pouvoir, la mort de ses 5 enfants à Nivelles, la multiplication des concepts d'insécurité amène les psys à devoir véritablement se saisir de cet événement pour dire qu'il faut en faire quelque chose, il ne faut pas laisser aux politiques le seul pouvoir de définir la vérité. Il faut qu'on réintroduise du questionnement, il faut qu'on réintroduise de la cohabilité, il faut qu'on réintroduise du doute et de l'incertitude. Parce que sinon on va nous mettre un policier dans chaque tête. Et je pense que là, politiquement, c'est un peu ce que j'essaye de faire quand je raconte une blague.
Tu connais la blague, la femme qui déprime?
Non.
Non, comme ça, tu pourras la rajouter. C'est une femme qui déprime, donc son mari n'en peut plus de la voir comme ça traîner dans son lit, il ne se passe plus rien, elle ne cuisine plus, elle ne sort plus, ils ne font plus l'amour, bien sûr. Et donc, il lui dit, écoute, ça suffit, il faut que tu fasses quelque chose. Elle dit, bon, ben, je vais en parler à ma copine, j'ai une bonne copine qui a toujours de bons conseils. Et sa bonne copine lui donne l'adresse d'un bon médecin, thérapeute, chez qui elle va. Et elle fait quelques séances, elle revient, et elle est nickel. Et tout se passe bien, elle se met à cuisiner, elle sort, et puis elle va même me chercher au lit. médecin. Il me dit, c'est extraordinaire, qu'est-ce que ce médecin-là, qu'est-ce qu'il... Ben, il m'a donné des trucs, il m'a donné des recettes, et maintenant, tous les matins, d'ailleurs, par ailleurs, je mets devant le miroir, je dis, je vais très bien, tout se passe bien, je vais très bien. Super. Ceci étant, mon chéri, je trouve que depuis que je viens te chercher au lit, c'est pas terrible ce que tu peux faire, et je trouve que tu devrais faire un effort, toi. Donc, peut-être que tu devrais aussi aller voir quelqu'un pour résoudre ce problème, parce que là, moi, j'ai envie, et je trouve que tu n'es pas à la hauteur. Et donc, il est un peu coincé, parce que, évidemment, là, les données sont changées, il va chez son ami. Il va le voir, il est très bien. Il y va, il fait quelques séances, il revient, et dit, chérie, c'est bon, quand tu veux, je suis prêt. Et donc, le soir venu, elle l'attend, en se disant, crâne, mais je sais bien que, il arrive à la salle de bain, il revient, il y va. Super. J'ai dit, waouh. Il dit, c'était bien. Ah oui, tu veux qu'on recommence? Attends. Il retourne à la salle de bain, il revient quelques minutes après, et super. Et comme ça, quelques jours d'affilée, même scénario, salle de bain, il revient, super. Alors, à un moment, elle est un peu inquiète, elle se lève, quand il est à la salle de bain.
Vous avez vu que donc la structure narrative de la blague basée sur la répétition. Hein.
Elle ouvre la porte et elle voit son mari tout nu devant le miroir qui dit « C'est pas ma femme, c'est pas ma femme, c'est pas ma femme. » Ah, tu l'as déjà faite, celle-là.
Tu connais celle du monsieur qui s'est dit dessus?
Non.
Tu connais pas la blague de monsieur?
Mais j'oublie toujours les blagues, tu sais, je suis
celui monsieur qui se fait pipi dessus, et donc il fait tous les urologues du monde. Et chaque fois, on lui dit, écoutez, monsieur, c'est psychologique. Ça, c'est l'horreur la plus complète, donc il refuse obstinément d'y aller voir, jusqu'au moment où il croise un copain qui lui dit, tu sais, moi j'y étais depuis, ça va beaucoup mieux dans ma vie. Alors il va voir un psy, quand même, bon, puisque son copain y va, ça c'est une recommandation. Et quelques temps plus tard, il se croise, comment tu vas? Il dit, okay. Quoi, c'est fini, tu te pisses plus dessus? Ah, si, 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 si. Autant qu'avant, mais maintenant je sais pourquoi. Merci beaucoup en tout cas.